Bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo sur Radio Imo et Radio Territoria.
Eh bien bonjour les amis, voilà, nous retrouvons pour ce numéro de juin du Bâtiment optimisé. Vous savez, c'est votre émission que vous attendez tous les mois. Une émission qui traite de sujets techniques, suffisamment techniques, mais aussi pour vous éclairer, promoteurs, aménageurs, agents immobiliers, administrateurs de biens, copropriétés, on est tous concernés par ces sujets. On vous donne des thématiques chaque mois avec nos amis d'Axéo avec lesquels nous avons coproduit cette émission. On va parler des polluants, les amis, de la toiture aux fondations, comment sécuriser vos actifs, pour certains que je connais bien, c'est un vrai sujet et c'est loin, très loin d'être anodin. Pour en parler, on a deux grands professionnels, ils sont forcément ingénieurs, c'est normal puisqu'on ne peut pas traiter du sujet qui est quand même un sujet complexe pour vous donner les clés de lisibilité, les clés de compréhension. Maïlig Frémont-Noto, bonjour.
Bonjour Sylvain.
Comment ça va Maïlig ?
Impeccable.
Merci, je vous retrouve régulièrement, vous êtes un habitué de la radio, vous êtes directeur de la division environnement pour Axéo et j'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois sur mon plateau, je suis ravi, c'est Maxime Rosio.
Bonjour Sylvain.
Bonjour Maxime. Vous êtes le patron de Solpol, voilà, gérant de Solpol, une entreprise qui est spécialisée en ingénierie sur les sites et les sols pollués.
Tout à fait.
C'est un vrai marché, hein. C'est hyper intéressant parce que ça reste quand même assez complexe, donc je compte sur vous pour nous éclairer avec notre lanterne. Alors justement, Axéo, on le sait tous, c'est un bureau spécialisé dans les métiers techniques du bâtiment, la division environnement en charge de la gestion des polluants, notamment amiante, plomb, radon, en fait, voilà, il y a tout ce qui touche directement, indirectement sur la gestion d'actifs ou sur le property en termes d'actifs immobiliers, vous intervenez pour résoudre un certain nombre de difficultés, notamment sur les problématiques de pollution. Alors, je vous propose, les amis, en introduction, qu'on essaye de travailler le principe de valorisation des actifs immobiliers. Ça vous va comme ça ? La valorisation, vous le savez, les amis, c'est un vrai sujet, parce que on se rend compte que les actifs immobiliers sont des métabolismes lents, très lents, mais des métabolismes quand même, qui fonctionnent de matière multipolaire, avec beaucoup de disciplines, qu'il faut maîtriser, il faut de la méthode, il faut vraiment de la documentation également, c'est ce que je pourrais appeler de la donnée ou de la data, bien évidemment. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de voir comment, à votre niveau, messieurs, dans vos fonctions éminemment importantes pour nos partenaires immobiliers, vous sécurisez le flux et les actifs immobiliers, bien évidemment. Vous, pour le bâti, Axéo, bien évidemment, et Solpol, vous, c'est les sols, voilà. Merci en tout cas de vous prêter au jeu des questions. Première question, quels sont les polluants qu'on trouve plus fréquemment dans les bâtiments et les sols ? Alors je sais que c'est un peu naïf peut-être comme question, je crois que voilà, la parole circule, on va commencer par vous Maïlig.
Oui. On va parler des immeubles bâtis, donc que ce soit à usage tertiaire ou même à usage d'habitation, donc... On a historiquement, même ici à la radio, déjà abordé les sujets sur l'amiante, le plomb, qui sont les deux principaux polluants du bâtiment, ceux qu'on connaît le plus, parce que la réglementation est un peu plus publique, en tout cas, on en a entendu plus parler. Mais il y a d'autres polluants du bâtiment qui ont été mis en place au gré de l'histoire de la construction en France et en Europe. Et on va retrouver des polluants, on va retrouver des radons, on va retrouver... alors ça, c'est un polluant
le radon,
naturel.
C'est un
gaz radioactif naturel qui est généré par le sol. Hein. On parlait géologie tout à l'heure en aparté, mais effectivement, il y a des roches dans certaines régions de France qui dégagent ce gaz et qui va pouvoir rester bloqué.
Notamment les régions granitiques qui sont très...
Dans les parties,
en Bretagne, je crois
en Bretagne, Massif central et puis l'axe Rhône-Alpin. Et donc effectivement, il y a ces polluants donc là, qui vont être des gaz qui vont être emprisonnés pour des raisons d'aération des locaux. Donc, il y a besoin de faire des diagnostics, en tout cas des mesures de ces dosages, et puis de faire des préconisations de travaux pour améliorer le bâti. Donc, et puis il y a d'autres matériaux qui sont venus, on parle des FCR aussi, donc les fibres céramiques réfractaires, c'est des matériaux spécifiques qui sont venus en remplacement de l'amiante. On a déjà parlé de l'amiante, de son interdiction, de son danger cancérigène, mais on a substitué le matériau amianté par un autre matériau qui s'appelle les FCR, et ces FCR,
fibres
malheureusement...
Fibres céramiques réfractaires.
Voilà, et malheureusement... Elles sont aussi dangereuses que l'amiante, elles sont aussi cancérigènes, mutagènes. Elles ont limité un usage très précis en remplacement, là où on n'avait pas d'autres matériaux en industrie, dans des zones à haute température. Mais on a un matériau qui, dans les analyses de risque...
Ça ressemble à quoi, une fibre céramique?
Ça ressemble à de l'amiante, c'est pas compliqué.
Ah ouais?
Non, c'est une laine, c'est comme une laine de roche, mais qui est encore plus fine, encore plus résistante à la chaleur.
Je comprends.
Et malheureusement, plus c'est résistant aux éléments, plus c'est dangereux pour l'être humain. Et donc, tous ces polluants historiques du bâtiment font l'objet de diagnostics réglementaires pour protéger les usagers du bâtiment et les travailleurs qui vont être amenés à améliorer le bâti, faire de la réhabilitation.
Question, quand on désamiante, on peut donc défibrer également
la même chose. On peut dépolluer un bâti pour sa durabilité. On parlait de valorisation. Pour la durée du bâtiment, la durée de vie, une gestion durable, on va faire des travaux d'amélioration et de dépollution du bâti.
Maxime, on a aussi les sols. Donc là, il y a des... vous allez m'expliquer. Donc, métaux lourds, hydrocarbures, substances chlorées.
C'est ça. En fait, tous ces polluants qu'on va retrouver nous concernant dans les sols sont très liés en fait aux anciennes activités exercées au droit des sites auxquels nous sommes confrontés. Ce qu'on va retrouver principalement, effectivement, comme polluants, ça va être les métaux lourds dans les sols, les hydrocarbures totaux, HCT, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP.
Alors, juste pour bien comprendre, c'est quoi un métaux lourd?
Un exemple de métaux lourds, alors vous en avez beaucoup. Généralement, on en analyse 8 à 12, qui sont le plomb, le mercure.
Et ça, c'est dans le sol.
Et ça, c'est effectivement dans le sol. Alors, dans des teneurs naturelles, la plupart du temps. Et par contre, quand c'est lié à une activité anthropique, on va retrouver ça dans des teneurs qui ne sont pas considérées comme naturelles qui ont un impact également sur la santé.
Sur la santé, bien
et
sûr.
Les futurs occupants du site.
Et un hydrocarbure, c'est quoi?
Les hydrocarbures, ça va être lié à des activités spécifiques. On peut prendre l'exemple des stations-service avec les cuves enterrées, d'essence, de gasoil, tout ce type de
Du fuel
fluide.
Également, si c'est
Oui, le fuel pour les particuliers, effectivement.
Ou même des entreprises qui utilisaient le fuel à l'époque, etc.
Oui, oui.
Dans des anciennes friches industrielles, il n'est pas rare de trouver justement des sols pétris d'hydrocarbures.
Effectivement, ça fait partie des polluants qu'on peut retrouver en grosse quantité et liés donc aux anciennes activités et principalement au stockage avec des cuves qui ont de nombreuses années et qui peuvent fuir.
Question, une pollution ne s'arrête pas qu'à la surface hein.
Non, tout à fait. Vous avez des pollutions qui ont pour origine des activités ou des sources potentielles de pollution qui sont déposées, qui sont au niveau de la surface et qui, s'il y a des accidents, des fuites ou ce type de choses-là, vont pouvoir migrer dans les sols de la surface vers la profondeur en fonction du type de polluant. Et vous avez des sources potentielles de pollution qui sont déjà enterrées, comme les cuves à fuel, par exemple, dont on parlait juste avant, et suite à une pollution, peuvent le polluant peut également migrer dans les sols jusqu'à la nappe. Principalement, c'est
Alors la nappe, c'est la nappe phréatique.
Alors c'est la nappe phréatique, la première qu'on peut retrouver. Il peut y avoir plusieurs nappes de polluer en fonction du.
Et en fait, si on dit qu'on veut faire une réhabilitation très réussie, c'est j'allais dire du sol au plafond, mais même en sous-sol. De la nappe jusqu'à l'étage du bâtiment. Quoi.
C'est ça, tous les milieux impactés par ces pollutions sont amenés éventuellement à être dépollués.
C'est tous les milieux finalement où s'exerce le vivant. Alors l'idée de la dépollution, on est d'accord, c'est l'axe directement de l'amélioration ou des problématiques de santé, on est d'accord.
C'est toujours le même objectif.
C'est l'usage et la santé dans le bâtiment. Santé, donc forcément... meilleure utilisation, usage du bâtiment, qui dit meilleure utilisation, meilleure valorisation, sécurisation de l'actif financier. Donc actif et santé publique, ça va plutôt bien ensemble dans une vision même financière, je veux dire. Donc on pourrait même estimer, d'ailleurs, c'est le cas, on ne va pas qu'estimer, c'est le cas, puisqu'on le fait, moi je le fais à mon niveau pour des partenaires que je conseille. On a mis en place, des ratios extra-financiers qui permettent de mesurer effectivement l'usage. Des choses qu'on voit plus maintenant. Est-ce que vous confirmez l'idée qu'on parle plus maintenant de santé publique dans le bâtiment?
Oui, on intègre ces indicateurs-là, bien sûr, dans tous les indicateurs RSE,
effectivement.
C'est plus
vrai maintenant, c'était pas le cas il y a 15-20 ans. Maxime, vous confirmez qu'on parle de plus en plus de santé aujourd'hui dans le... en bâtiment, c'est... ou c'est toujours...
Oui, c'est devenu une obligation, et puis ça devient de plus en plus des obligations. Effectivement, on est parti de oui. très loin avec des choses qui n'étaient pas forcément contrôlées, et puis maintenant, les règles changent, évoluent au fur et à mesure du temps, et de la prise de conscience de cette problématique sanitaire, et ça s'entoure progressivement de règles et de normes, de lois.
Alors, je voudrais qu'on parle de l'impact financier, parce que ça peut être des surcoûts, avec des impacts sur le projet. Bien évidemment, je l'ai déjà vu à deux reprises, notamment à Romainville, sur un immeuble d'habitation. D'ailleurs, c'est marrant, c'était une ancienne station-service qui est devenue un immeuble mmh. avec 32 unités, hein, 32 appartements. Et la première approche de coût, de prix sur cette opération avait donné un chiffre X. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un gros problème de dépollution qui a plombé en fait une partie du projet parce qu'il n'avait pas assez été investigué en fait en réalité. Et on s'est rendu compte ça, de cela a posteriori. Alors justement, on voit souvent ces polluants comme une simple contrainte réglementaire, hein, parce que il faut le dire, dans le bâtiment, on vit une inflation réglementaire et normative très très forte. On va pas disserter aujourd'hui de pourquoi c'est bien, est-ce que c'est trop ou pas assez, mais à quel point c'est un risque financier. Et c'est ça que je voudrais vous rappeler avec vos donneurs d'ordre, vos clients qui sont là, qui vous écoutent, pour un promoteur, un investisseur. On commence par qui ? Mailig et ensuite Maxime ? Oui.
On a, dans l'expérience qu'on peut vivre auprès de nos clients, on a quelques ratios. Alors, ça reste des cas plus ou moins atypiques ou plus ou moins complexes, mais des problématiques de polluants du bâtiment non anticipées, hein, dans une campagne de travaux, ça peut faire augmenter les coûts de travaux de 15-20% sans problème. Ah oui. Et on a même des dossiers où parfois les montants de travaux de désamiantage curage sont plus chers que l'opération de démolition qui était initialement prévue. Ça peut arriver d'avoir 2 millions de désamiantage alors qu'il y avait 500 000 euros de démolition initialement prévue parce qu'ils n'avaient pas anticipé les polluants. Donc ça, c'est dans la phase opération travaux. Donc quand on découvre ces problématiques de polluants, bah, le propriétaire ou le promoteur est obligé de gérer la problématique et subit ces surcoûts-là puisqu'il est engagé dans l'opération. Tout l'intérêt des bureaux spécialisés, c'est d'anticiper ces risques-là, d'en réduire les coûts, voire d'amener une aide à la décision en cas d'acquisition. On a déjà parlé, je crois, sur ce plateau à l'occasion d'une émission où on va pouvoir faire une étude d'anticipation, une espèce d'étude prédictive, c'est-à-dire pour un promoteur qui s'intéresse à un bâti, de pouvoir faire une analyse de risque de présence de certains matériaux, de polluants, évaluer des coûts potentiels. Ça va lui permettre d'intégrer ça dans son offre de prix et dans son projet global. Et il n'aura pas la mauvaise surprise au moment d'attaquer les travaux.
Bien sûr.
Et donc ça, on gère ça pour la partie construction.
Juste une question. Si on anticipe suffisamment, Mailig, est-ce que ça peut avoir un impact sur la sécurisation du budget, tu sais, global, qui permet de bien visualiser, avoir ces écarts majeurs? Parce que quand vous dites 10-15%, voire plus, d'écart, c'est la marge qui disparaît. Hein,
C'est la marge ou même la viabilité
du projet. Ou la viabilité de l'opération.
Il y a des opérations, et bon, forcément pour des raisons de confidentialité, on ne va pas les citer, mais il y a opérations où les bâtis sont aujourd'hui vides. On parle souvent, je pense à l'immobilier parisien, où il y a une crise du logement. Il y a des bâtis vides à Paris, pas simplement pour des questions de spéculation, simplement pour des questions sanitaires, où dépolluer le bâtiment coûte trop cher au propriétaire ou à un futur acquéreur. Donc, le bâtiment reste en l'état, non utilisé et vide. Donc, et le projet est arrêté.
On ne va pas dire où, mais il y a des vrais bâtiments dans Paris, vides, à l'heure où on dort dehors, où il y a 300 000 SDF. C'est une horreur, hein, absolue, à cause de ça. Enfin, c'est fou.
Et tu ne pourrais pas mettre non plus les SDF à l'intérieur pour des raisons sanitaires. Donc, c'est inutilisable sans travaux spécifiques.
Mais c'est kafkaïen, quoi.
Mais c'est très cher. Donc, ces travaux-là coûtent très cher. Ils sont très contraignants. Donc, toute la stratégie, elle est effectivement d'anticiper ça, d'optimiser les coûts, les délais avec des méthodes spécifiques, en consultant des entreprises spécialisées pour ne pas subir.
Est-ce que ça réduit les coûts, le fait d'anticiper? Ou est-ce que le fait qu'on intègre ces coûts-là, dès le début, on sait où on va, quoi?
Déjà, on sait, ça réduit un petit peu les coûts, parce que forcément, quand il y a un bureau spécialisé en cité sol polluée ou en polluant du bâtiment qui est dans un projet en tant que maître d'œuvre, forcément, les entreprises de travaux qui vont répondre, elles savent qu'elles vont répondre avec un œil critique d'un bureau spécialisé, on connaît les niveaux de prix, on connaît les stratégies. Donc forcément, naturellement, sans rentrer dans une négociation tarifaire, on sait qu'on va avoir des prix de marché qui soient plus raisonnables.
C'est clair. C'est vraiment le sujet. Maxime, de votre point de vue, Ça paraît évident comme ça, mais c'est vrai que anticiper, c'est sécuriser, quoi.
Mais tout à fait, on rappelle l'importance pour un promoteur de définir son enveloppe budgétaire avant la construction du bâtiment, même l'acquisition du terrain, parce que c'est des données qui sont essentielles. Et il y a plusieurs disciplines comme ça, que ce soit l'amiante, que ce soit les cités sols pollués, que ce soit la géotechnique, où on a un besoin d'études préalables pour dimensionner le coût éventuel d'une dépollution, d'un type de fondation ou autre. Et en cité sol pollué, ben, de la même manière que pour l'amiante, on a également des enveloppes de dépollution qui peuvent être très importantes. Ça peut aller, alors on n'a pas tout le temps de la pollution, hein, mais dans les cas où on retrouve de la pollution sur des terrains qui nécessitent une dépolle, ça peut aller de quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions d'euros pour une dépollution. Donc c'est un coût qui est intégré en amont par rapport dans le cadre du coût de la construction générale.
Alors justement, le fait, vos clients sont des donneurs d'ordre qui ont la méthode, sachant, ils savent, aguerris, ils sont bétonnés pour savoir le faire. Enfin, bétonnés, je fais un jeu de mots, mais je veux dire, ils savent le faire, on est d'accord. Alors, ils savent accompagner.
Beaucoup, effectivement, sont aguerris à ce type d'études-là et vont le demander en amont.
D'accord.
Souvent en urgence quand même, parce que c'est quand même des choses dont on se souvient un petit peu au dernier moment, en disant « oui, j'ai une étude de pollution à faire, j'ai une étude amiante ou autre ».
Ils ont déjà acheté le foncier ?
Ça dépend. Non, généralement, ils sont plus sous promesse de vente. Il n'y a pas encore
l'achat définitif. Toujours très en amont, on est d'accord.
Alors, on devrait intervenir très en amont. Ouais, souvent, on intervient un petit peu au dernier moment parce qu'on se souvient qu'il y a de la pollution à faire. Malgré l'impact que ça a financier derrière, tout le monde est humain et voilà, il y a des priorités peut-être dans les études à mener, dans ce qu'il y a à faire dans le cadre d'un projet de construction. Et ce qui fait que les bureaux d'études interviennent souvent dans l'urgence.
Alors, quand c'est dans l'urgence, c'est-à-dire quand on vous appelle, je peux caricaturer, salut Maxime, tu peux intervenir demain matin, quoi.
C'est souvent ça, je dépose mon permis dans 15 jours, est-ce que je peux avoir l'étude de pollution ? Malheureusement, il y a un délai à respecter parce qu'on a un délai d'analyse, on a un délai d'intervention avec des choses qu'on doit respecter pour intervenir en toute sécurité parce qu'on fait des trous dans les sols.
Combien de temps il vous faut en général ?
Pour un premier diagnostic, quelque chose de classique, on est de l'ordre de 4 à 5 semaines pour un diagnostic, en espérant qu'il n'y ait rien derrière. Comme c'est une démarche qui est pragmatique, on va engager les diagnostics en fonction des besoins. Donc il y a une partie diagnostic, et puis après, quand il y a un besoin et qu'il y a une dépollution à engager, généralement, il y a ce qu'on appelle derrière un plan de gestion qui va reprendre à peu près le même délai derrière.
Alors, justement, quand on fait ce métier, vous faites un diag. Il y a une normalisation, il y a une qualification.
Oui, tout à fait.
Est-ce que quand, de chez Solpol, on sort un diag, c'est aussi une garantie ?
Oui, on passe une certification pour avoir justement cette garantie.
Okay. Elle s'appelle comment, cette certification ?
C'est la certification LNE,
d'accord.
Cité sol pollué. Donc c'est toute une certification pour répondre à des normes. Donc la norme, elle est, je peux la citer, c'est la norme NFX 31620 qui définit les règles à respecter en matière de diagnostic en cité sol pollué.
C'est une obligation, hein, faut le rappeler. Hein,
alors la norme, c'est préférable. On n'a pas, c'est pas une obligation.
Ah, c'est pas une obligation
non.
légale.
Non.
D'accord.
Non,
okay.
La norme n'est pas une obligation légale, mais c'est quelque chose qui permet à un bureau d'études de se structurer et de respecter une certaine méthodologie. Et c'est quelque part une carte de visite ou enfin une.
Le fait qu'on soit norme ISO, par exemple, donne plus de crédibilité à l'action. Et donc ça conforte une plus d'action, quoi.
C'est ça. Quelque part derrière, il y a effectivement cette crédibilité, le fait qu'on respecte une norme. Et dans le cadre de notre métier, c'est effectivement avantageux de pouvoir dire que nous sommes certifiés en cité sol polluée.
Alors, j'ai une question à vous poser, Maïlig. Les maîtres d'ouvrage, ils ont déjà ce qu'on appelle, vous appelez ça les DTA, hein, dossiers techniques amiante, ou des diagnostics de base, mais pourquoi ça ne suffit pas ?
Malheureusement, le DTA, c'est ce qu'on appelle le dossier technique amiante. Il est là pour l'usage normal du bâtiment. C'est vraiment un diagnostic des premiers matériaux les plus dangereux, les plus émissifs, les flocages, les faux plafonds, les calorifugages. Ça, c'est ce qu'on a commencé.
Voilà,
les premiers qu'on a diagnostiqués dans les années 2000. Ensuite, il y a un panel de repérage, enfin de zones de repérage qui s'est un petit peu élargi. Donc, c'est vraiment un document pour intervenir pour vivre, pour travailler dans le bâtiment, pas pour faire des travaux. Et pour faire des travaux, il y a un autre repérage qui est l'avant-travaux, qui va avoir des investigations plus lourdes, plus destructives. Donc, c'est ce document-là qui permet d'engager des travaux, alors soit sans risque, s'il n'y a pas de matériaux polluants, soit avec toutes les informations qui permettent de gérer les risques liés à l'amiante ou au plomb, en l'occurrence. Et comme pour les activités de cité sol polluée, les bureaux qui travaillent dans les polluants du bâtiment sont, répondent à des normes de process d'intervention. Les laboratoires qui analysent en cité sol polluée ou en amiante, ils sont normés, enfin, ils sont aussi certifiés COFRAC. Donc toute la chaîne technique du diagnostic via le laboratoire jusqu'au livrable, toute la chaîne est certifiée. Donc on a la garantie d'avoir un document qui est bien, fiable. Enfin voilà, c'est pas, et on peut, chacun ne peut pas avoir, voilà, on va pas avoir un autre résultat. Si on prélève au même endroit, on aura la même réponse. Si c'est pollué, c'est pollué. Et si c'est des hydrocarbures, ça sera toujours des hydrocarbures ou de l'amiante.
C'est très clair.
Donc effectivement, le DTA ne suffit pas dans la mesure où trop souvent, il ne rassemble pas, il n'est pas entretenu en fait, il n'est pas mis à jour de toutes les informations amiantes qu'on obtient au gré des repérages avant-travaux qu'on peut faire. Normalement, c'est un grand classeur dans lequel on va ranger tous les autres avant-travaux qu'on a fait au fur et à mesure. Et s'il est bien fait, tout complet, on a de l'information. Malheureusement, ça reste souvent deux documents séparés.
C'est très clair. Mais quand on n'est pas encore maître d'ouvrage et qu'on envisage l'achat d'un bâtiment, par exemple, à réhabiliter, qu'il faut estimer le budget, donc forcément, hein, parce que ça, c'est le nerf de la guerre, et qu'on n'a pas encore accès à toutes ces informations, ça se passe comment dans ce cas, justement ? Tu sais, quand on est en phase intermédiaire, c'est...
C'est ce que j'expliquais tout à l'heure.
Ça peut présenter un risque.
Effectivement, si on s'intéresse à l'acquisition d'un bien, en vue soit de le réhabiliter, soit de le démolir pour reconstruire un immeuble d'habitation, une friche industrielle qui va être rasée. On veut récupérer le foncier et construire un immeuble d'habitation dessus. On ne peut pas faire ces repérages obligatoires puisqu'on n'est pas propriétaire du bâti. Ouais. Et le propriétaire cédant, vendeur, il n'a pas l'obligation de les faire pour vendre. Il a juste besoin de faire un diagnostic avant-vente où, en gros, on ne trouvera rien parce que le périmètre est parfaitement inintéressant. Donc, le document n'est pas pertinent pour engager des travaux futurs pour le futur investisseur. Et donc, les bureaux spécialisés, en l'occurrence, on fait des études préalables, préliminaires, ce qu'on appelle une due diligence environnement, où on va aller analyser les risques potentiels par rapport aux quelques documents qui sont en possession du propriétaire, par rapport à l'historique du bâtiment, par rapport à un œil technique spécialisé qui va visiter les locaux. On va potentiellement faire quelques analyses, quelques prélèvements pour confirmer ou infirmer des hypothèses de présence de matériaux. Et on va budgéter, on va faire une grille d'analyse avec un principe, alors que c'est comme une analyse de risque pour la santé au travail, hein. On va définir une probabilité, enfin une dangerosité et une occurrence de l'arrivée de ce risque. Et à partir de là, en gros, on va faire une table, un tableau à deux entrées avec « il y a beaucoup d'amiante et c'est beaucoup cher », là, ça va sortir en rouge. Et puis ça, il y en a potentiellement pas beaucoup.
Et tout ça, c'est modélisé, je veux dire.
Et ça, on le modélise dans nos études, et ça permet de prioriser les levées de doute à faire, et peut-être des investigations complémentaires pour creuser le sujet, pour peut-être éliminer une ligne de risque de travaux à 500 000 euros, qui va faire basculer le projet en c'est faisable ou c'est pas faisable. Là, ça vaut le coup d'aller faire trois échantillons supplémentaires, mais on n'est toujours pas propriétaire du bâti. Donc c'est vraiment des études qui sont destinées aux futurs acquéreurs et qui vont les aider dans leur prise de décision, dans le montage de leur budget global. Tu parlais d'investissement, de valorisation ou d'économie générée. Des bureaux d'études spécialisés en cité sol polluée ou en amiante comme nous, on parle d'honoraires d'études ou diagnostics de quelques dizaines de milliers d'euros, même quand l'opération est grosse.
Ah oui.
Le panier moyen, il est dans les dizaines de milliers d'euros. C'est à peu près ça. Ça peut être 1000 balles le diagnostic.
Ça peut monter jusqu'à 10 000 euros.
Un peu plus cher. Oui, ou peut-être des fois, ça frôle les 100 000 sur certains projets longs avec un gros suivi de travaux. Mais on parle d'enveloppes de 10, 20, 50, 100 000 euros d'honoraires pour des enveloppes de travaux de dépollution de 1 million, 2 millions, 3 millions, voire plus. Donc finalement, c'est un investissement, mais j'explique souvent à mes clients que ces honoraires-là, ils les amortissent dans les économies globales du projet, dans le risque d'aléa, dans la durée du projet. Et finalement, à l'échelle globale du projet, c'est toujours trop d'argent, mais c'est pas grand-chose par rapport à l'enveloppe globale.
Bah moi, je considère même que c'est du haut de bilan, tu vois. Du haut de bilan, c'est-à-dire que c'est pas une dépense, c'est pas une contrainte, c'est un véritable investissement, parce que bonjour la surprise quand ça vous tombe dessus, hein. Parce que ça, tout le monde l'a vécu, hein, dans le métier, hein. Tout le monde l'a vécu dans le métier, par une manque d'anticipation. Donc d'expliquer l'importance de l'étude historique et documentaire. Je pense que c'est important, ça, de le rappeler.
Oui, tout à fait. Bah, je rejoins ce que disait Malik. Il y a ce besoin d'anticipation pour limiter les coûts par la suite. Il y a toujours une approche budgétaire et économique dans nos diagnostics. Et plus on le fait en amont, plus on va avoir cette connaissance des coûts qui seront liés à une éventuelle dépollution pour un changement d'usage ou pour une réhabilitation.
J'aimerais que vous m'expliquiez ce que c'est qu'une attestation réglementaire. On dit ATES Allure.
C'est ça.
ATES Allure. Hein.
C'est ça.
Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, c'est une attestation, ça fait partie des évolutions de la réglementation
Okay. Mais dans le cadre de la loi Allure, toujours ?
Tout à fait. D'accord. Voilà. Et c'est très lié, en fait, au changement d'usage. Et cette ATES, c'est une ATES donc, qui est réglementaire. Quand on parlait de la certification tout à l'heure, pour la partie diagnostic, on est sur une démarche volontaire de certification. Par contre, pour la réalisation des ATES Allure, on est sur une démarche qui est réglementaire. C'est-à-dire que pour pouvoir produire des ATES Allure, les bureaux d'études ont l'obligation de passer la certification et les nœuds pour cette partie-là.
Donc, la certification est une obligation pour pouvoir délivrer.
Pour pouvoir délivrer l'ATES Allure, voilà. Là, c'est une obligation pour cette partie-là qui n'est pas la même que la partie diagnostique. Et donc l'ATES Allure, elle est demandée, elle est requise dans le cas d'un dépôt d'un permis de construire, dans le cas d'un changement d'usage sur un site qui a été occupé ou est occupé par ce qu'on appelle une ICPE, une installation classée pour la protection de l'environnement, ou alors si le site est inscrit dans une base de données qui s'appelle la base de données SIS, Système d'information sur les sols. Donc ça fait partie des évolutions réglementaires, et donc pour ces sites spécifiques, donc classés ICPE ou dans la base de données SIS, on a maintenant effectivement l'obligation, le donneur d'ordre a l'obligation de faire produire par un bureau d'études certifié une ATES Allure qui va devenir une pièce constitutive du permis de construire.
D'accord.
Et qui est obligatoire donc dans le cas où le site a été occupé par des institutions classées pour la protection de l'environnement. L'objectif, il est de définir et de prendre en compte les éventuelles mesures de gestion dans le cadre du changement d'usage.
Alors, tout à l'heure, on parlait de l'urgence. Votre client vous appelle la veille pour le lendemain. Est-ce que vous constatez, une question en général, que vos clients ont évolué ? C'est-à-dire qu'ils sont plus dans l'anticipation ? Ou est-ce qu'on est toujours dans la même galère ? Parce que moi, je me fie à l'expérience que j'ai eue. Je reconnais que souvent, c'était un peu la variable d'ajustement et qu'on s'y prenait un peu la dernière minute. Est-ce que dans la pratique, vous observez, de la part de vos donneurs d'ordre, une meilleure anticipation ou pas, ou toujours pas ?
En fait, c'est une partie de notre travail d'informer les donneurs d'ordre et de les sensibiliser à ces choses-là et de leur dire qu'il y a un temps pour faire les choses et qu'il faut l'anticiper le plus possible. Mais malheureusement, effectivement, on se retrouve toujours, comme ce que je disais tout à l'heure, à travailler très très souvent encore dans l'urgence. Mais voilà, c'est notre travail aussi d'aller les voir, de faire des formations chez les promoteurs et de leur expliquer, de faire la temporalité des choses et de leur dire qu'il faut mieux anticiper, parce que quand on nous appelle en disant « je dépose mon permis de construire dans 15 jours, et il me faudrait l'ATES Allure », là, c'est pas possible.
Non, d'accord. Donc, ils réagissent comment quand vous leur dites « vous êtes gentil, mais là, c'est pas possible » ?
Il y a toujours des possibilités.
Est-ce qu'on peut
après
s'arranger ? Non, mais je veux dire, c'est fou, quoi. Je veux dire, ce que je trouve singulier, c'est la prise de conscience qu'ils n'auraient pas quand ils font ça, quoi. Mm. Vous voyez ?
Il y a des solutions, parce que bon, généralement, ils peuvent déposer un permis de construire. Après, très souvent, ils ont des pièces complémentaires à déposer. Donc, ils ont un certain nombre de temps pour déposer ces pièces complémentaires. Et on profite de ce temps-là.
D'où l'intérêt de vous consulter en amont. Mmh. D'où l'intérêt de savoir que Solpol existe pour beaucoup d'ordres d'ordre et de prendre le soin de vous solliciter comme Axéo dès le début de la genèse du projet. C'est-à-dire, c'est ce que vous dites souvent. Dès le début du projet, on doit faire partie des éléments de réflexion.
L'anticipation, c'est vraiment la clé de toutes ces problématiques. Alors, pour le coup, effectivement, tu posais la question de... Est-ce qu'on a toujours ces urgences, ces demandes de dernière minute ? Alors, il y en a toujours. Effectivement, pour certains, c'est un vrai manque d'anticipation, parce que voilà, ils s'en préoccupent pas ou pas au bon moment. À la décharge de certains clients, il y a beaucoup de projets, et tu connais bien les promoteurs, qui sont gelés depuis longtemps, pour des raisons diverses, économiques et autres.
Il y a même des
opérations qui sont à l'arrêt ou qui sont au sommet. Et donc, les diagnostics n'ont pas été faits il y a un an ou il y a deux ans, parce que c'était trop tôt. et peut-être que le projet va s'accélérer très vite et que le calendrier va se rétrécir. Donc parfois, il y a des mouvements comme ça qui font qu'il y a des vraies urgences. Alors il faut réussir à les gérer, réussir à apporter le service malgré tout. Mais voilà, à la décharge de certains clients, ça n'empêche pas l'éducation et la formation. Moi, j'appelle ça éduquer les clients à la notion d'urgence, qui est une urgence et ce qui n'en est pas une. Bon, ça passe par la formation, effectivement. Mais voilà, il y a aussi ce critère-là qui fait qu'aujourd'hui, avec l'économie et ce qu'on vit depuis plusieurs années, eh ben, il y a des vagues d'ouverture, d'opportunités qui font que bah, des fois, ça se comprime sur des périodes. Et là, bah, effectivement, ce n'est pas une mauvaise volonté du client qui nous appelle au dernier moment. C'est juste que bah, il a les fonds maintenant. Le budget, il sort là tout de suite et ouais. c'est à prendre et il faut faire tout de suite l'étude.
J'aimerais qu'on aborde justement... un côté plus prosaïque, plus synergique dans le cadre du projet, sur des études de cas. Concrètement, vous intervenez sur le terrain souvent pour sauver la rentabilité d'un projet. Je peux le dire comme ça ou...
Oui, parce que parmi les mesures de gestion dont on parlait tout à l'heure, quand on a une problématique de dépollution, les mesures de gestion, elles sont nombreuses. Il y en a plein qui existent et il y a des coûts différents. Donc l'intérêt du bureau d'études et de l'ingénierie qui est lié à nos prestations, c'est de trouver la meilleure solution d'un point de vue technique et économique. Et cette solution, notamment via la partie économique, peut permettre de sauver ou de continuer, en tout cas, un projet et ne pas le plomber et l'arrêter parce qu'il y aurait trop d'argent à dépenser, que ça soit en amiante ou en cité sale polluée. L'ingénierie qu'il y a derrière pour trouver des solutions les plus économiques et les plus avantageuses d'un point de vue technique et économique, ça fait partie de notre travail pour aider justement le promoteur à pouvoir réaliser son projet.
Est-ce que on peut parler d'un cas d'école, un use case, comme on dit, c'est très à la mode, j'adore prononcer. Le cas de la résidence étudiante de Saint-Cloud, qui était une ancienne blanchisserie. Vous connaissez ça aussi, hein?
Oui.
Découverte de solvant, alors vous allez me dire, COHV dans la nappe, élaboration d'un plan de gestion, pompage et traitement chimique, et puis vous me parlerez également le cas de la station-service de Sarcelles aussi. Parlez-moi de ce projet pour que ceux qui nous écoutent illustrent bien le propos.
C'est des projets comme on en retrouve assez régulièrement en cité sol polluée où on a effectivement une ancienne activité qui est jugée très polluante, les blanchisseries.
Blanchisserie industrielle.
Ouais. Oui, tout à fait. Ouais.
Et c'est polluant ça?
Oui, parce que une des matières premières qu'ils utilisent dans le cadre de leur process, c'est des solvants. Donc pour le nettoyage, on utilise un certain nombre de solvants. Et comme c'est des usines ou des entreprises, on va dire, qui sont assez anciennes, il y a ce risque, effectivement, où dans le temps, on se préoccupait peut-être un petit peu moins de la sécurité par rapport à l'utilisation de ces matériaux, au niveau des stockages, au niveau du process. Et on va retrouver dans les sols, effectivement, des substances polluantes qui sont liées à cette ancienne activité. En l'occurrence, là, pour les blanchisseries, ce qui est le plus souvent le cas, donc on va retrouver des solvants, donc des COHV, composés organohalogénés volatiles, et qui sont des produits relativement dangereux, d'un point de vue sanitaire vis-à-vis d'une modification de projet. On va, pour ce type de projet-là, avoir l'objectif de construire des logements donc sur cette ancienne usine où on a retrouvé des solvants liés à l'activité. Donc les solvants ne sont pas toujours compatibles, effectivement, en fonction des concentrations par rapport à l'usage qui est projeté. Et notre objectif est donc de définir des mesures de gestion, toujours avec ce bilan coût-avantage, technique et économique, pour trouver la meilleure des solutions pour arriver à des niveaux résiduels en solvant dans les sols ou dans la nappe, acceptable vis-à-vis de l'usage projeté. Donc le travail du bureau d'études, c'est de trouver, encore une fois, voilà, ces solutions, les meilleures solutions d'un point de vue technique et économique pour arriver à l'objectif escompté.
Mise en place du plan de gestion avec le pompage et traitement chimique.
Oui, donc ça c'est...
On pompe.
Oui, c'est des techniques de dépollution qui existent parmi
tant
d'autres.
Comme les Shadocks, et les Shadocks pompaient. Je sais pas, qui c'est qui se rappelle de ça, hein, les Shadocks?
Oui, oui.
Non mais je veux dire, on dépollue en fait en réalité.
C'est ça.
La chimie, on utilise la chimie pour dépolluer ?
On peut utiliser la chimie pour dépolluer en faisant des apports, des adjuvants qui permettent de dépolluer les sols. Il y a plusieurs techniques qui existent. On peut être sur de l'ex-situ, de l'in-situ. On va dire la technique la plus classique, on va terrasser, on va... enlever du site les polluants, les retirer et aller les traiter ailleurs.
Okay.
Une autre technique, ça peut être des techniques in situ où on va, par exemple, par l'intermédiaire de venting, on va mettre des aiguilles dans les sols.
On injecte des choses,
alors que ça soit de l'air, que ça soit des adjuvants, et qui vont permettre de dégrader la pollution et de la récupérer par d'autres moyens derrière, par un phénomène d'aspiration et puis après des unités de traitement. L'objectif, il est tout le temps le même, il est de diminuer la concentration en polluants en la traitant, soit par des moyens mécaniques ou par des moyens chimiques.
Après, vous analysez le résultat qui le rend du coup compatible avec le montage de l'opération.
Tout à fait, il y a un suivi, il y a des objectifs de réhabilitation qui sont définis en amont au niveau du plan de gestion pour avoir des concentrations résiduelles qui soient acceptables d'un point de vue sanitaire avec l'usage projeté.
À Sarcelles, c'était une station-service ?
Station-service, effectivement.
Et il y a eu un projet de logement sur cette station-service.
Oui, tout à fait.
En face de chez moi, il y a exactement le même sujet. Une ancienne station-service qui appartenait à Renault, en face de chez moi, dans une zone... résidentiel pavillon, c'est un super foncier. Hein. Et l'opération est à l'arrêt parce qu'il y a des gros problèmes de pollution.
C'est ça. On retrouve assez souvent au niveau des stations-service des masses de polluants importantes en hydrocarbures.
Énorme.
Ouais. Et qui peuvent avoir un coût énorme pour le futur projet. Et même chose, on a des techniques
de dépollution.
Et Sarcelles,
ça a vu le jour
a vu le jour. Ouais.
Vous êtes intervenu sur ce dossier.
Tout à fait. On a fait toute la partie études, plan de gestion. Et puis après, on peut aller jusqu'à la maîtrise d'œuvre de dépollution. Alors, on n'est pas des pollueurs.
D'accord.
On n'est pas jugé parti.
Vous faites de la maîtrise. Ouais.
Mais après, on fait de la maîtrise d'œuvre en dépollution. On accompagne effectivement le donneur d'ordre dans la partie dépollution. Oui, tout à fait. Oui. Parce que c'est un métier.
Vous êtes rémunéré pour ça.
Oui.
Parce que le modèle économique de Solpol, c'est quoi ? C'est du jus de cerveau. C'est on vous paye au temps passé ou à la production de l'étude ? C'est comment ça se passe ?
Tout à fait. Il y a une partie technique sur site avec des prélèvements. Donc il y a des techniciens qui vont sur site pour faire les prélèvements, donc qui sont rémunérés. Hein. Il y a des analyses en laboratoire. Il y a une partie sous-traitance avec l'utilisation de machines de sondage. Hein. Pour faire les prélèvements, on utilise un certain nombre de machines qui nous permettent d'atteindre les milieux que l'on veut investiguer. Une partie laboratoire, et puis après une partie ingénierie derrière, effectivement, qui est rémunérée au temps d'ingénieur.
C'est intéressant ces deux cas parce que c'est l'illustration même que quand c'est bien travaillé, l'opération peut vraiment aller à son terme.
Même avec des cas compliqués, effectivement, sur ces stations-service qui sont très polluées ou ces blanchisseries qui sont également très polluées, on va arriver à trouver des solutions économiquement acceptables pour que le projet sorte.
Et toujours, Maïlik, dans l'anticipation, le mieux, pour sécuriser le truc. La maîtrise d'œuvre, aujourd'hui, amiante, plomb, et l'exemple du devis de deuxième montage, par exemple, qui est passé de 300 000 euros à 150 000 euros grâce à une stratégie d'intervention optimisée. Donc, on peut expliquer qu'on peut faire la preuve que quand c'est bien géré, bien optimisé, au contraire, là, du coup, non seulement vous réduisez beaucoup, mais en plus, ça devient un véritable investissement. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une apparenté au haut de bilan. Quoi.
Oui, on a plusieurs leviers sur des études sur les polluants du bâtiment. C'est déjà s'assurer que la partie repérage diagnostic a été faite de façon très précise et pertinente, qu'il n'y a pas eu de, on va dire, ce qu'on appelle des étendues. Hein. Donc quand on a repéré des matériaux amiantés, s'assurer qu'ils soient bien localisés sur les plans uniquement là où ils sont situés et pas juste par facilité généralisée sur des surfaces qui sont non concernées. Et puis parfois sur des couches de matériaux qui sont concernées, à part de l'amiante, d'autres pas. Et il ne faut pas vulgariser, mais voilà, on n'est pas obligé de désamianter la totalité des couches d'un sol s'il n'y a que la couche intermédiaire ou la couche superficielle qui est amiantée. Donc cette analyse précise des documents de repérage, le choix des bonnes méthodes pour intervenir et la consultation des entreprises avec des méthodes prédéfinies pour que tout le monde réponde avec la même méthodologie d'intervention, ça permet d'optimiser les coûts et les délais et d'avoir des offres qui sont comparables. Par défaut, si un propriétaire envoie son repérage amiante en l'état, hein, sans la critique dessus, à différentes boîtes de travaux, il va se retrouver avec des offres qui très probablement ne seront pas comparables. Alors en termes de montant, ça c'est certain, mais même en termes de méthodologie, ça va être difficile de savoir s'il utilise la bonne méthode, la moins bonne, si c'est plus long, plus court. Ça va être très très difficile pour le client de juger sans être cadré en amont. Donc c'est ça l'intérêt des bureaux, c'est de cadrer la méthodologie, le bon zonage, d'avoir un document de synthèse d'accompagner les entreprises sur les visites pour les chiffrages. Hein. Nous, on fait faire, enfin, on participe aux visites des entreprises de travaux qui viennent faire leurs devis. Donc, au moins, tout le monde répond sur la même base. On a des choses comparables et tout le monde s'engage sur la réussite du projet avec des délais et des budgets qui sont tenus.
Moi, je déduis, on arrive à la conclusion de l'émission, moi ce que je déduis de ce que vous dites, moi j'ai appris vachement de choses aujourd'hui, c'est super. Parce que c'est vrai que sur le papier, quand vous parlez de désamiantage, de plomb, le radon, franchement c'est pas sexy quoi. Les assets ou les properties, ils te disent, bon ok. Mais c'est tellement important que finalement ça finit par devenir passionnant parce que, en fait, c'est, je répète, hein, je radote un peu, mais c'est un élément du haut de bilan, quoi. C'est un élément d'investissement nécessaire. On devrait placer accès au Solpol dans les postes nécessaires de montage de l'opération. Moi, je trouverais ça très bien. D'ailleurs, je pense même qu'on devrait vous faire rembourser par la sécurité sociale. Non, mais j'exagère un peu.
Non, mais bien géré, c'est remboursé par l'opération et par la future revente. Donc oui, on est remboursé à la fin.
Non, mais Maïlig, Maxime, c'est vrai, dans l'opération, le promoteur, le donneur d'ordre, lui, il va s'y retrouver facilement. Si on devait aujourd'hui faire une conclusion et faire passer un message court pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui sont dans les métiers de l'immobilier. On va commencer par Maxime. Maxime, le message à faire passer pour votre métier, et je suis d'ailleurs très content, puisqu'on a découvert un peu plus ce que vous faites au quotidien.
Le message à faire passer, c'est que les cités sol polluées et les autres disciplines, en fait, tout ça, c'est des choses qui sont importantes dans la construction et qui sont à anticiper. Pour la partie cités sol polluées, il y a une problématique sanitaire derrière, comme pour la partie amiante. L'objectif, il est la santé des personnes qu'on va faire vivre sur ces sites-là. Et notre travail, nos travaux de chacun des bureaux d'études, il est là uniquement pour se prémunir d'éventuelles problématiques de santé ultérieures dans le cadre des usages que l'on fait des sites qui ont maintenant malheureusement un passif industriel qui est assez important. Et donc on est là pour mesurer et pour éviter qu'il y ait des problématiques sanitaires par la suite.
Oh, c'est intéressant. J'aime beaucoup ce que vous dites parce que il y a quelques jours, au Cercle National des Armées, on a lancé un institut pour la mise en scène sur les problématiques de remontée capillaire, d'humidité, de moisissure qui entraînent des risques graves de santé publique. Et l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a estimé qu'il y a environ 20 000 décès directement ou indirectement liés aux problématiques d'humidité et de mauvaise qualité de l'air intérieur. Et quand je vous entends parler de santé publique très en amont d'un bâtiment qui va se construire, etc., c'est le même combat, en fait. Vous êtes orienté pour sauver la vie des gens. J'insiste, hein, je pèse mes mots. Ça sauve des vies lorsqu'on fait un travail de fond là-dessus.
C'est le but.
Maïlig, pardon. quelques mots, justement, pour corroborer ce que nous dit Maxime, mais également un message pour que vous, Axéo, qui est à dimension nationale, faites passer à l'ensemble de l'écosystème.
On parlait de la fonction de préventeur, hein. Tu dis sauver des vies, alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais en tout cas, on est là dans un rôle de préventeur des risques, effectivement, ces problématiques-là. Bah, le message, c'est effectivement, on l'a déjà cité, c'est d'anticiper ses projets, de s'entourer des équipes spécialisées compétentes, et quand on a trouvé ses partenaires, bah, les garder comme Axéo travaille régulièrement avec Solpol. Bah, voilà, quand on a une équipe constituée complémentaire, on travaille ensemble. Alors, on travaille régulièrement ensemble sur des projets de type marché public, hein, des groupements classiques, et puis dans des marchés privés aussi. Mais ce qu'on remarque, c'est que le donneur d'ordre public, il est plus dans l'anticipation. Dans ses consultations, il prévoit souvent toutes ses spécialités dans des groupements avec un mandataire type architecte ou autre. Donc le privé, il est beaucoup plus dans la dynamique courte et dans des timings serrés. Donc voilà, c'est d'essayer d'avoir cette même spécialisation des équipes projet, d'avoir les bureaux spécialisés en amont des opérations. Et puis après, le mandataire, l'architecte qui va faire l'aménagement, bah, il récupérera un bâtiment sain, curé, voire démoli, dépollué pour refaire son projet. Mais il ne va pas s'occuper de cette problématique-là.
C'est extrêmement clair. C'était un vrai plaisir de vous avoir tous les deux sur le plateau. L'anticipation n'est pas un coût, c'est un investissement. J'insiste. Intégrer les bureaux d'études dès le départ, spécialisés dans l'étude de faisabilité et de l'acquisition foncière, me paraît un geste de père de famille, de bon père de famille, de bonne gestion dans les opérations. C'est de plus en plus le cas, en tout cas on passe le truc. On retrouve bien sûr Axéo sur le site internet, bien évidemment d'Axéo, on peut y aller directement. On peut aller également sur le site de Solpol, S-O-L-P-O-L, Maxime Rosio, pour l'appeler de ma part. Vous dites, voilà, salut Maxime, j'ai un souci. Il intervient avec l'ensemble de ses équipes, intervention au niveau national. Hein.
Oui, tout à fait. Oui.
Partout sur le territoire, comme chez Axéo, vous êtes aujourd'hui un acteur déterminant sur l'ensemble territoire. Le podcast est à retrouver, comme chaque fois, sur les bonnes applications qui vont bien. Vous pouvez aussi également le revoir sur le site internet de Radio Immo, bien évidemment. Vous pouvez également aller sur les réseaux sociaux, liker, commenter, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Voilà, il faut retenir, l'anticipation n'est pas un coût, c'est un investissement. Ça sera la clôture de notre émission pour ce numéro de juin 2026 du bâtiment optimisé avec le concours d'Axéo. Un petit clin d'œil à l'équipe technique qui est derrière la plateforme avec notre ami Baptiste qui a réalisé l'émission. Notre amie Juliette aussi qui a conçu le conducteur du projet également et toutes les équipes d'Axéo comme celle de Radio Immo et du groupe Territoria. Merci Maxime, merci Maëlig. On vous souhaite que des belles choses, des sols dépollués en faisant appel, bien évidemment, à Solpol comme à Axéo. On se retrouve le mois prochain.
Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axéo, à retrouver sur les sites et applis de Radio Immo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.